Autre radio, autre culture, bonjour. Nous sommes en compagnie de Pascal Failleton. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Et d'Alain Michon.
Bonjour.
Alain, que je connais depuis longtemps, qui se dit vagabond éclairé.
Oui, vagabond par mon métier, dans le spectacle vivant depuis 25 ans, et où j'ai agi dans plusieurs domaines. Notamment, j'ai commencé par être danseur, j'ai fait de la mise en scène, des chorégraphies, j'ai aussi fait des costumes et du théâtre.
Effectivement, c'est une vie bien remplie, ça.
Elle est comme les vagabonds, en fonction du vent.
Pascal est photographe professionnel.
Alors, j'ai exercé dans différents domaines, la photographie de communication, la photographie industrielle, et parallèlement, j'ai essayé d'avoir une démarche personnelle, voilà, en m'interrogeant sur le monde et sur son image.
En donnant une image, positive, ou ce que vous aviez dans la tête, ce que vous aviez envie de démontrer ?
Non, j'ai pas envie de démontrer une image, mais ce qui m'intéresse, c'est le média que j'ai eu entre les mains et comment la photographie pouvait me servir à poser un regard sur le monde, mais sans vouloir donner une forme positive ou négative. C'est là, je déconnecte complètement cette démarche d'un travail de communication. C'est pas du tout à ce niveau-là. C'est au niveau de sa forme elle-même. Travailler la forme de la photographie que j'ai apprise à un moment où elle était héritière d'une tradition de 150 ans, d'une pratique particulière où la matière où raconte la forme, la lumière. Et avec son passage à partir de 2005 vers le numérique, j'ai eu du mal à l'accepter, à faire le passage. Et pour me rendre compte que le passage ne se faisait pas au niveau du média lui-même, mais au niveau du regard que la société ou le public ou les gens ont sur l'image. Et qu'aujourd'hui, on peut, même si on fait des photographies de manière traditionnelle, le regard est forcément bouleversé par le fait qu'on a une approche numérique de la photographie.
Alors qu'est-ce qu'elle a apporté, cette photo numérique, justement ?
Au niveau de la technologie, les choses sont très très différentes. Le résultat plastique d'une photo numérique diffère énormément. Elle est maigre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de profondeur. C'est très difficile d'avoir une image très profonde, d'avoir une profondeur de nuance, d'avoir...
Même avec les nouvelles technologies, parce que la photo numérique évolue, je dirais même pas d'année en année, mais de mois en mois.
Oui, ça s'est énormément amélioré, et même c'est supérieur, on pourrait dire, aujourd'hui au rendu traditionnel, argentique. Mais malgré tout, ce sont des images qu'on reconnaît par leur courbe de réponse, ou par leur modelé, par leur nuance, par leur registre. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui que c'est pas là que réside le secret de la chose, quoi. Le secret de la chose, c'est le regard des gens. On ne peut plus faire une photo qui ne soit pas numérique, parce que c'est le regard posé sur l'œuvre ou l'image qui est lui-même façonné par cette pratique actuelle de l'image.
Alors, je vous ai réunis tous les deux parce que c'est dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Pénélope, que vous avez organisée au Théâtre Liberté à Toulon. Alors, comment est venue cette aventure ?
Donc, elle est venue d'une demande du Théâtre Liberté. Bon, c'est un théâtre qui est récent, hein, à Toulon, et je crois qu'ils ont plusieurs objectifs. Donc, il y a l'objectif traditionnel qui est donc la programmation. Donc de spectacles, et il y en a beaucoup dans l'année, et aussi une partie qu'ils appellent médiation. Donc c'est une forme de contact avec la population qui prend appui sur certains artistes pour créer des projets artistiques autour qui seraient en liaison avec la programmation, justement. Donc c'est une, on pourrait dire... une autre face du Théâtre Liberté, qui est donc de proposer des rencontres avec certaines couches de la population. Et là, sur le projet qu'on a appelé Pénélope, c'est en relation avec le spectacle Itac, où on nous a demandé de penser à trouver une relation avec le spectacle et la population. Donc il était un peu évident que les Pénélope d'aujourd'hui seraient, c'était un peu facile en même temps, mais assez évident qu'on rencontre des femmes de marins. Le projet a été autour de ce thème de Pénélope qui, avec les rencontres de ces femmes, ont pris une forme assez sensible qui, on pourrait dire, s'est étendue sur la relation homme-femme.
Alors, il est évident que Toulon étant maintenant devenu le premier port militaire de France, qui devient même, je crois, le premier port militaire d'Europe, de par sa superficie, de par ses navires, de par le Charles de Gaulle. Donc nous avons énormément de femmes de marins qui sont présentes dans cette ville. Comment vous les avez rencontrées ?
Le théâtre avait déjà établi quelques relations avec une femme, Anne Robert, qui fait déjà un travail d'alphabétisation en plus. Parallèlement à sa vie, elle fait, et d'ailleurs on le remarquera avec plusieurs autres femmes, ces femmes n'existent pas seulement dans l'attente en tant que femmes de marins, elles existent aussi en agissant sur la population, ou bien en faisant un travail personnel, elles ont un métier. Donc cette femme, Anne Robert, elle agit au niveau de l'alphabétisation, donc elle était déjà très ouverte pour nous rencontrer. Et elle a établi les ponts entre, je ne sais pas si on peut appeler ça, des syndicats, plutôt des regroupements de femmes. Alors on peut citer l'ENFEM et puis des organismes de communication propres à la marine qui ont assez vite accepté de communiquer notre projet. Et puis je dois remercier aussi Marion qui nous a ouvert à la porte du musée de la marine,
service historique de la marine.
Et j'y serais jamais allé tout seul, en fait. Donc voilà, c'est tout d'un coup autour de ce projet Pénélope, ça nous a permis, en tout cas, moi je suis nouvel habitant à Toulon, ça m'a vraiment enfin permis de rentrer dans cette ville qui pour moi était encore restée mystérieuse au bout d'un an et demi. Je pense parce qu'il y a une population justement de marins qui a un fonctionnement, on pourrait dire, à part, bien qu'elle soit par les femmes intégrée à la population, mais on ne les connaît pas, on ne les rencontre pas. Et donc ce travail de médiation me paraît très important. En tout cas, il nous a permis, nous, de rencontrer ces femmes d'une très très belle façon.
Alors, le théâtre Liberté vous a demandé de monter cette exposition. Exposition qui est composée de portraits de femmes, de photos, photographies, donc faites par Pascal, et qui sont sonorisées. Alors, quel a été le besoin de sonoriser ces photos ?
C'est qu'à l'origine, c'était d'abord un projet de collecte sonore. C'est d'abord un projet sonore, me semble-t-il, pour en rendre compte. Alain avait imaginé la possibilité d'y mettre des images. Il est arrivé à un truc un peu rare, c'est que, embêté avec l'idée de ce projet, on s'est rencontré à la sortie du théâtre, assez par hasard. Et on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux contacté le théâtre avec des projets, en rendant compte d'un travail de médiation antérieur, et que ça nous a donné envie, quand on l'a constaté, de travailler ensemble. Donc au départ, c'est quand même un projet qu'Alain a bâti sur la collecte de paroles, et je pense que la photographie est venue un peu en deuxième, quoi.
En fait, initialement, la demande avait été de faire une vidéo. Et on m'avait demandé, est-ce que vous êtes capable de faire une vidéo ? J'ai dit, moi, je fais du son. Et comme je suis justement, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu ironiquement un vagabond éclairé, je suis capable, par les diverses positions que j'ai faites dans mon métier, d'aborder un peu tous les sujets, et toujours avec la même pensée. C'était quand même très lourd, il y avait très peu de temps pour réaliser cette exposition. Et cette rencontre avec Pascal a été, je dirais, comme un coup de foudre. C'est-à-dire que très vite, je me suis aperçu qu'on avait la même, pas le même matériau à travailler, mais la même pensée autour de, dans la façon d'aborder des gens, dans la façon de regarder ce qui existe devant nous et d'en faire notre premier matériau, de ces personnes, comment ils sont, sans objet préconçu, quoi, sans... Voilà. Et ça, je pense qu'on a la même démarche. Donc, je lui ai demandé très vite de faire les photos. Donc, je me suis libéré, moi, de la partie photographique. Et ça fait longtemps que j'ai enseigné pendant 10 ans aux Beaux-Arts à Paris. Donc, j'ai évidemment été confronté à la relation de l'image et du son, qui n'est pas du tout évident. Et je sais qu'il faut, dès la conception, concevoir une écriture autour des projets, sinon ça ne marche pas. On ne peut pas plaquer du son sur la photographie comme ça. C'est rare que ça marche. Donc, ça fait un petit peu de temps que j'essaye de trouver cette relation entre le son et l'image, en tout cas l'image dans le cadre de la photographie. Et là, j'ai proposé des nouveaux matériaux qui sont donc des haut-parleurs qu'on appelle les haut-parleurs carton, qui ont la propriété de faire vibrer les surfaces et non pas de pas créer un déplacement d'air comme une enceinte normale. C'est-à-dire que le haut-parleur est collé à la photo et fait vibrer le support, quel qu'il soit d'ailleurs, et ça pourrait être une vitre, ça serait pareil. Elle n'aurait pas le même timbre, mais ça serait à peu près la même chose. Ce qui veut dire qu'on a proposé donc que ces images parlent, donc soient créatrices de son, de sonorité. Donc après, on pourra reparler de la conception de la bande-son en fonction du nombre d'images et de l'endroit qui a par contre été imposé par le théâtre. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi l'endroit, on nous a dit « vous pouvez exposer là ». Donc c'était assez contraignant, c'était une petite corniche de 3,80 m de long sur environ 30 cm de hauteur, de 30 cm de profondeur, donc on n'avait pas beaucoup de choix, soit de poser des photos comme si c'était des cadres, ou bien de concevoir une bande entière avec un rythme, de couleurs, de formes, enfin bref, ça on pourra en parler après. Donc voilà, on a associé un savoir-faire pour un même projet, et puis on l'a mené parallèlement. Et je pense que le son, pour le coup, dans les premiers contacts avec ces femmes, a été déterminant dans la mesure où on a commencé par les faire parler et aussi à les écouter. Ce qui les a mis dans un état, je dirais, assez naturel pour pouvoir accepter d'être prises en photo. Et la notion d'être prise, on pourrait en parler, parce que c'est justement ça. On n'a pas voulu voler des images, on a proposé un sentiment.
Alors, combien de femmes ont participé à cette exposition ?
15 femmes en tout ont accepté.
Il y en a qui se sont rétractées après ou pas ?
Non. 15 femmes ont accepté en fait de venir voir pour décider sur place si elles feraient quelque chose ou non. Et les 15 qui sont venues, bon, on a eu des refus, c'est-à-dire de femmes qui n'ont pas voulu venir ou qui se sont rétractées au téléphone. Mais les 15 qui sont venus ont ensuite accepté de donner leur voix, de choisir des textes et de faire des images.
Alors nous, par rapport à ces femmes, je dirais que c'est quand même une très grande preuve d'amour vis-à-vis de leur mari, de leur homme. Parce qu'on sait combien elles sont toujours un peu en arrière par rapport au mari, même si elles ont ce côté matriarcat, parce qu'elles sont toutes seules et que le mari est loin. Je trouve quand même que de présenter leurs sentiments, de présenter des bribes de lettres qu'elles ont pu écrire et autres, je trouve que c'est quand même une sacrée preuve d'amour de leur part. Vous n'avez pas vu ça comme ça ?
Non, on l'a pas vu comme ça exactement.
Mais c'est peut-être si, enfin, c'est moi, c'est ce qui porte, c'est ce qui porte toutes ces femmes. Elles en parlent toutes. Mais nous, c'est pas ce que je mettrais au premier plan. Je mettrais au premier plan une preuve d'autonomie, de penser. Et justement, je pensais pas à ce point. J'avais des poncifs dans ma tête, un peu cachés. Je me disais, ces femmes-là sont dans l'attente, sont, vous voyez, en second plan. Et j'ai trouvé le contraire.
Parce que j'en ai rencontré quelques-unes au moment de l'inauguration de l'exposition. Franchement, c'était le sentiment qui en ressortait. C'est que ces femmes sont débordantes d'amour vis-à-vis de leur homme. Et elles ont expliqué en quelques mots, pendant l'inauguration, elles ont expliqué par leurs mots qu'est-ce que c'était pour elles l'attente et les jours moins J, où elles comptaient les jours sur le calendrier avant qu'ils arrivent. Et cette envie, plus que d'affection, c'est vraiment de l'amour de leur part. Et moi, ça m'a, je dirais pas transcendée, mais ça m'a énormément touchée de leur part.
Tant mieux.
Oui, c'est vrai que c'était...
Mais elles n'étaient pas toutes dans ce... C'était, je pense que c'était pas conflictuel, mais c'était une interrogation toujours constante. Elle n'était pas dans l'amour comme ça, pas toutes en tout cas. Il y en a qui ont revendiqué, comment on peut dire. C'est difficile de parler à la place des femmes. Moi, j'étais très, très questionné par ça. Et heureusement que j'avais comme appui cette lecture d'Annie Leclerc, qui est une philosophe qui a écrit sur Pénélope, qui a écrit un livre qui s'appelle « Toi, Pénélope », qui analyse le rapport, donc, qui questionne l'amour de cette Pénélope vis-à-vis d'Ulysse, initialement, hein, dans le livre d'Homère. Elle questionne l'amour, et c'est pas aussi simple de dire, c'est pas aussi simple que de dire « elles sont toutes dans l'amour ». Oui, je pense que oui, parce qu'elles ont au moins accepté de venir en parler. Elles sont dans ce sentiment. Mais chacune d'entre elles a aussi parallèlement des révoltes, des douleurs, des joies, et aussi des questionnements sur leur autonomie de femme, leur façon de gérer cette absence. Et comme tu as dit, l'éducation, elle porte beaucoup. Elles doivent exister par elles-mêmes, mais elles doivent faire exister leur famille. Et aussi, ce qui n'est pas tellement dit dans la bande, mais certaines distances avec le sentiment, justement, comme des secrets par moments, où elles sont des fois dans des situations où elles ne peuvent pas exprimer leurs sentiments.
D'après ce qu'elles m'ont dit pendant l'inauguration, elles ont dit, de toute façon, quand on se rencontre, il est hors question de parler de l'attente, de parler de cette désespérance d'attente où l'homme n'arrive pas tout de suite. Il faudra attendre 2 mois, 3 mois, 6 mois avant qu'il revienne. Et elles disent, quand on se rend compte, on n'en parle pas, parce que sinon on s'écroulerait toutes.
Oui, c'est ça. Et nous, on les fait parler de ça. Et je crois que c'est ça qui a suscité de l'émotion et même des contre-réactions de certaines femmes qui ne veulent pas en parler. Parce que c'est trop douloureux ou parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore compris. Quand je dis que ça reflète aussi les relations hommes-femmes, je dirais entre guillemets, de tout le monde, oh là là, ça va être compliqué, je ne suis pas un philosophe. Moi, ce que j'ai appris, par exemple, ce que je n'avais pas compris, ce que je sentais en moi en tant qu'homme, c'est quand je vais avec mes amis enregistrer, c'est comme si j'allais guerroyer. Je suis heureux de partir. Mais je ne peux pas vraiment l'exprimer, parce que la femme n'est pas trop contente de me voir partir, enfin que je crois. Mais quand on les entend, ces femmes-là, certaines femmes disent, entre guillemets, « mais il part très bien, enfin je vais pouvoir vivre une certaine... Puisqu'après tout, il s'en va souvent, il faut bien que moi j'existe pendant ces périodes d'absence. Donc comment je vais les gérer? Donc enfin je vais retrouver un système que je me suis créé, autonome, pour vivre ça. » Et presque, c'est de dire, mais on n'a pas le droit de le dire, mais presque, ok, tu t'en vas, je te laisse partir parce que j'ai confiance en notre amour, mais je vais revenir vers moi. Et je crois que si on se le disait vraiment entre les couples, je pense que ça irait mieux. Donc elles nous ont appris, ces femmes-là, elles nous ont fait reconnaître ça, avec des points de vue différents, avec des façons de faire différentes. C'était ça qui était très très beau. Par exemple... Certaines ont écrit des livres, certaines ont lu d'autres lettres, d'autres ont pleuré rien qu'en lisant des mots. Il y a quelque chose d'exacerbé par rapport à la population dite normale chez ces personnes. Et exacerbé par la longueur de l'absence et la répétition.
Ça, on me disait également pendant l'inauguration, c'est le problème de toutes les... Bah, par exemple, on va dire les femmes ou les compagnons d'artistes, je dirais même les archéologues. Je veux dire, le nombre de divorces chez les archéologues sont invraisemblables du fait de cette absence qui peut durer 6 mois, 7 mois. Et la personne qui reste à la maison à s'occuper des enfants ou ne serait-ce qu'à s'occuper du ménage a toujours du mal à assumer. Qu'est-ce qu'il ou elle peut bien faire, surtout chez les archéologues, parce que bon, ils sont dans un milieu civil quand même, ils ne sont pas dans un milieu militaire avec des codifications importantes. Là, ils sont ailleurs sur Terre. Que peut-il faire? Peut-il me tromper? Comment peut-il vivre sans moi? Voilà.
Oui, c'est ça, question. Et inversement également.
Je ne sais pas si la personne, que ce soit le marin ou l'archéologue qui se trouve en mission, en a le sentiment. Parce que moi, je me rappelle d'avoir été nombreuses fois en mission. Il est vrai que ce qui se passe dans la vie privée est mis de côté. On n'y pense plus. On est dans la mission, on est dans la recherche, on est dans la découverte, et dans un travail qui tous les jours... là, qui est codifié, en revanche, hein, le travail, on sait qu'on travaille tant d'heures, etc., que les relations avec les gens, ben, il faut que ça se passe bien, sinon ça va devenir épouvantable. Et c'est vrai que la famille, on essaye de ne pas trop y penser. Sinon, tout s'écroule. La façon de le sentir, que ce soit chez le marin ou chez la femme de marin, n'est pas le même.
Non.
C'est pas pareil du tout.
C'est pour ça qu'on voudrait bien interroger les hommes. J'en ai interrogé un qui commençait à me dire que dans les carrés, bon, il parle des officiers, c'est des officiers, donc il connaît ce fonctionnement. Il y a justement, encore une fois, comme tu dis, il y a des codes très très établis où la personne qui commence à dérailler, elle est mise de côté, elle n'est pas éjectée, mais elle est mise de côté et on s'en occupe pour qu'il revienne dans une certaine normalité. Parce que sinon, surtout dans l'armée, je crois que c'est dangereux. On ne peut pas... entre guillemets, péter un câble dans un sous-marin, c'est pas possible.
Tout à fait.
Donc il y a une vraie organisation de très hiérarchisée, très codée, avec des responsables, alors que la femme est livrée à sa fantaisie, on pourrait dire. C'est-à-dire la fantaisie de créer chaque jour son quotidien.
Et aussi, elle est confrontée à tous les impératifs du quotidien, alors que l'homme, lui, en est déchargé.
Oui, oui, absolument.
Lui, il obéit aux ordres, oui. elle obéit aux contraintes du quotidien.
Donc le retour, c'est-à-dire après, et ça, on a bien compris qu'il fallait... J'ai essayé de développer dans la conception de la bande-son, mais je ne suis pas tout à fait bien arrivé, parce qu'on a rencontré ces femmes à peu près une heure et demie, chacune, pas plus. Donc évidemment, c'est un condensé de quelque chose, c'est un premier pas vers une certaine connaissance de leur milieu et de leur façon de vivre. Donc j'avais voulu un peu hiérarchiser ces notions d'attente, de départ, comment on part des deux côtés. Après cette distance, ce qu'une d'entre elles appelle le milieu, le « je » et le « nous », le milieu, et puis quand il revient, c'est « nous » et « je », tu t'en vas, et puis quand il revient, c'est l'inverse. Donc les retrouvailles, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est une notion, c'est un espace-temps qui est hyper fort. On est dans l'attente depuis 5 mois, puis il revient. Comment on le retrouve, cet homme ? Et comment cet homme retrouve ses marques ? Il y en a certaines qui disent « mais il me suit partout, il est perdu, il ne sait pas où sont les affaires ». D'autres femmes ont compris qu'elles nous ont dit « il faut à peu près 3 semaines ». 3 semaines pour qu'il revienne dans son état... je dirais, qui commence à être bien ici chez nous. 3 semaines, je dis, comment ça se passe alors ? Comment vous faites ? Hein ? On n'a pas parlé d'intime, mais c'est ça qui est sous-entendu. Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai eu mon ami Santiago, qui est danseur, un vieil ami avec qui j'ai dansé il y a longtemps, qui est prof de yoga maintenant, et il me dit, il y a certaines tribus indiennes qui, quand ils arrivent, ces gens voyagent longtemps et arrivent dans un lieu, un aéroport même, eh bien ils ne quittent pas l'aéroport pendant 2 ou 3 jours, le temps que leur âme revienne les rejoindre. Oui, cet espace-temps est magnifique. Et quand j'ai dit ça à certaines de ces femmes, c'est une très belle chose ça. Celui qui a vaincu les flots, qui a guerroyé, tout ça, qui revient... toute remplie de puissance, de rock. Comment la femme peut l'accueillir, celui-là ? Est-ce qu'elle doit être prête comme ça, tout d'un coup ? Non, je ne pense pas. Donc ces choses-là, elles sont sous-entendues dans ce travail, mais elles ne sont pas dites. Ça ne nous intéressait pas de parler à ce point. C'était trop fragile, donc on n'a pas touché ça. On les a touchées par la juxtaposition poétique de certaines lettres, phrases, mots. Et ça a été notre démarche, justement, de passer par la verbalisation de ces mots, soit par leur propre écriture, soit par la lecture de textes édités, hein, comme ceux d'Annie Leclerc ou du baron de Rothschild, qui a écrit des très belles choses sur les courses à voile, ou bien de ce qu'on a extrait de forums, de blogs, ou bien carrément de la poésie. Donc certaines d'entre elles nous en ont amené. Et donc là, toutes ces prises de parole, assez légères en fin de compte, puisqu'il n'y avait pas de grosses tensions, puisqu'elles avaient le loisir de choisir, préparaient donc à la photo, à l'image. C'est, notre collaboration était dans ce sens, c'est-à-dire Pascal intervenait un peu en retrait, donc regardait, observait ces femmes, comment elles étaient. Et après, il y avait cette, comme une chambre noire, en fait, elles étaient face à deux parapluies
de flash,
d'éclat. Et là, Pascal les mettait en scène, hein, sans cet aspect de la démonstration de ce que je suis. C'est plutôt comment, quel est ce sentiment d'attente, où est-ce que...
La façon dont on a procédé a permis d'éviter la représentation et d'être, enfin de jouer dans l'être. Une fois, j'ai eu la remarque, je dois faire comme si. Je dis non, on lâche ça, on ne fait pas comme si. Et on a profité de l'état des personnes, des femmes, pour faire les images. Et c'est vrai que le fait que la photographie numérique permette de montrer l'image, et puis le fait de bien expliquer comment le résultat qui était visé, avec aussi des fois des petites recettes de mise en place, ça a permis de partager la façon dont on fabriquerait l'image. Donc on échappe volontairement à tout vol d'image. On est dans le partage et du propos et de l'écoute et de l'image. Je pourrais presque dire, enfin pousser le truc, j'aurais envie de dire que j'aurais pu presque ne pas être là, finalement. Mmh. À certains moments, on avait prévu différentes recettes pour faire des photos. Alain avait pensé au rôle d'un miroir qui permettrait de recentrer le regard dans une direction et de suggérer cette distance pour celui qui verrait la photo vers un point, vers une fuyante. J'ai trouvé que c'était compliqué de l'utiliser, bien que je l'ai essayé avant les prises de vue, je l'ai essayé avec mes sœurs, avec les membres de ma famille, j'ai fait ces images, et en extérieur ça fonctionnait très bien, mais là, dans le cadre de la prise de vue qu'on nous a allouée, c'est-à-dire l'avant d'une salle de cinéma, avec très peu de recul, aucun décor possible, le miroir captait soit la source de lumière, soit l'appareil photo, soit du noir, donc... C'était très difficile de l'utiliser, donc j'ai abandonné ça et bon, ça a été très bien partagé aussi par Alain qui avait tout imaginé avec cet artifice au départ. Et puis il m'avait suggéré une deuxième idée et en même temps qu'il me l'a envoyé, j'avais aussi pensé, c'était de matérialiser le lien avec une ficelle qui est devenue ensuite un ruban pour donner à lâcher, pour être dans le moment où les deux personnes vivent l'acceptation. Et donc ça a été proposé pour la prise de vue, et j'ai pu dire, je fais la photo quand tu lâches le ruban qui est tendu. Donc en fait, c'est la personne qui lâche le ruban qui déclenche la photo. Donc à la limite, on aurait pu imaginer un système où physiquement le lâcher du ruban déclenche l'appareil photo. Notre rôle partagé dans cette histoire, c'est d'être dans l'écoute, de préparer un cadre pour recevoir quelque chose qui finit par se dire et se partager, on pourrait dire à trois, puisqu'il y avait l'actrice, dans le sens de c'est elle qui fait l'action.
Qui acte, oui.
Et puis nous qui réalisons la captation. Hein, on est là pour recevoir et en ce sens, ouais, je pense que le beau de la démarche, c'est ça, quoi. Cette façon de recevoir.
Alors je vais jouer l'ingénu là-dedans. À partir du moment où se déclenche quand elle lâche le ruban, finalement c'est elles qui sont maîtres de leur portrait. Quelle est la démarche artistique du photographe dans ces cas-là?
Je dirais de préparer la scène, justement. Préparer l'enjeu.
Le rôle du photographe, c'est de préparer ses conditions matérielles et psychologiques. Il est évident que l'acteur de la photo, dans le sens la personne qui lâche le ruban, ne peut pas non plus exactement, lorsqu'elle a le regard qui part sur un point de fuite, savoir ce que ça donne dans une photo. Donc évidemment, c'est moi en tant que photographe qui sais que si c'est du côté gauche et que la lampe est de l'éclairage principal est de ce côté, que l'ombre aura tel rôle et que... Donc Là, c'est un peu technique, c'est trop technique pour la personne, pour le gérer elle-même. Pour le gérer elle-même. C'est-à-dire que l'éclairage pilote des flashs ne correspond pas à l'éclairage de la photo. Enfin, bon, il y a des petites conditions comme ça. Moi, je sais que je peux retoucher le fond de la photo parce qu'on est en photo numérique et que des choses qui étaient importantes autrefois, aujourd'hui, elles ne le sont pas. L'attitude, l'émotion qui passe dans le visage est plus importante que le fait de savoir qu'il y a quelque chose qui brille sur le décor de la salle et qu'il faudra retoucher. Aujourd'hui, je peux considérer que voilà, je ne vais pas abîmer l'image, je ne vais pas mentir si je retire un tube fluorescent dans la salle. Par contre, je vais mentir si l'expression n'est pas juste. Voilà, donc c'est plus une recherche de, je n'ai pas envie de dire de vérité, parce que tout est fabriqué, mais de justesse.
Moi, j'avais rajouté une contrainte, et c'est juste pour corriger ce que tu penses quand tu lui poses la question. C'est donc pas toi qui fais la photo, c'est la personne qui déclenche la photo. En fait, j'avais rajouté un espace de temps à inframince, en relation avec l'inframince de Duchamp, qui dit que l'espace inframince, c'est la portion de temps inframince qui existe, par exemple, quand tu t'assieds sur un siège dans le métro, tu te lèves, tu t'assieds après quelqu'un qui vient de se lever. Il y a une sensation là de... Tu es encore dans l'individu, c'est un peu trivial, mais il se passe quelque chose que moi j'ai déjà senti, qui est un espace de temps comme ça, qui est très très court, qui est de l'ordre de la perception d'un temps, mais oui, cet espace-temps. Donc, de la même façon, quand cette femme tient un ruban dans la main et qu'on lui dit... Quand tu lâcheras ce ruban, tu auras accepté de le lâcher, de rompre. Donc la contrainte que j'avais mis en plus, c'est demander à Pascal, justement, tu attends un espace inframince avant de déclencher. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le déclenchement, on est dans la résonance de cet acte, dans la résonance temporelle et forcément sentimentale. Et la grande difficulté pour un photographe, c'est justement de ne pas appuyer au moment où il se lâche. Parce que d'une part, il aime bien que le ruban soit encore dans le champ, qui flotte. Donc il y a, par exemple, ce ruban qui flotte. On se demande ce que c'est dans les photos. Parce que le ruban est en train de tomber. C'est aussi la résonance de sa rupture. On est dans cet espace de temps qui est, je trouve, très intéressant. Et justement, notre approche, elle est, moi, en tout cas la mienne, quand je suis en contact comme ça avec, je dirais, les gens... entre guillemets, non, normaux, qui ne sont pas des acteurs des espaces culturels. Donc j'invente des moyens pour les détourner, c'est des procédés de détournement. C'est-à-dire que je vais leur demander, par exemple, justement, de lâcher, de tenir un truc très fort, de lâcher. Et donc je m'intéresse à moi ce qui se passe dans cet acte physique qui va les détourner de leur...
De leur paraître.
De leur paraître. Et donc, je peux aussi, par exemple, de les mettre dans une boîte en carton quand il s'agit de prendre des sons. Parce que forcément, mettre un micro devant une personne, c'est pas facile quand il n'est pas initié. Par contre, de le mettre dans une boîte en carton et de lui dire, voilà, tu es dans une caverne, quand il commence à jouer avec la résonance de la boîte en carton, et le message qu'il raconte, c'est pas la tension de ce message, c'est juste qu'il joue. Bon, ça, c'est un exemple. Mais qui est aussi un procédé de détournement. Et j'en use beaucoup, en tout cas, quand il s'agit de capter ces espaces de temps naturels. Et je crois que dans cette exposition, ces femmes-là sont belles parce qu'elles sont naturelles. Elles sont passées par tout un procédé de parole, puis de photographie avec des contraintes.
Ben, on s'est rendu compte qu'elles acceptaient
leur image.
Le processus.
Et puis leur image.
Et le processus.
Je crois que...
Jusqu'au résultat final. Puisque à la fin, en général, elles ont bien aperçu de l'image. Ou pour les dernières, elles ont pu voir les images des premières. Et elles les ont acceptées aussi dans le cadre de l'ensemble de la démarche.
Mis à part quelques-unes qui nous ont quand même dit que... La majorité de ces femmes semblaient tristes ou nostalgiques. On a eu ça comme critique.
Oui, après, j'ai vu les photos, ce n'était pas l'impression qu'elles dégageaient. C'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'elles étaient toutes dans l'attente. Et là, les photos ont été prises au moment opportun, où ça se sentait le plus, j'ai l'impression. Ce qui était amusant, c'était de voir ces femmes sur les photos et de les voir en réalité. Mmh. Il y en a qu'on ne reconnaissait pas, alors que les photos ont été prises peu de temps avant. C'est vrai. On ne les reconnaissait pas. Il y en avait d'autres, et elles étaient... Je pense à un portrait où il y a la jeune femme présente une espèce de ferveur religieuse. Elle m'avait surpris. Le regard qu'elle avait était assez surprenant. Et quand je l'ai vue, bon, elle l'avait plus. Elle était en train d'essayer d'expliquer ce qu'elle avait ressenti au moment de la photo. Et tout. Je l'écoutais, je lui dis non, elle ne pourra jamais expliquer réellement pourquoi d'un seul coup elle a un regard pareil, un regard un peu, peut-être un peu fiévreux, un peu...
Peut-être qu'elle venait de pleurer avant.
Peut-être, oui. Mais vraiment, on sentait cette espèce d'attente. Ça me faisait penser au portrait de la jeune sainte de Lisieux. Voilà. J'ai pensé à ça. Je dis, tiens, cette espèce d'illumination intérieure, en même temps de fièvre, d'attente. J'ai trouvé vraiment le portrait assez et vraiment extraordinaire. Et puis, toutes ces femmes, il y en a qui étaient un peu gênées de se voir en photo, qui disaient, oh, mais je pensais pas qu'on allait se voir comme ça.
Oui, elles se sont livrées. Elles nous ont livré leur âme. Enfin, une partie de leur âme, vraiment. C'est très généreux de leur part, j'étais très surpris. Surtout qu'elles l'acceptent, après.
Contrairement à un comédien, en fait.
Exactement.
Elles sont dans l'antithèse du comédien.
Ah, oui, oui. Et les paroles qu'elles ont dites, vraiment. Donc après, le questionnement, c'est... Alors, est-ce que, justement, les voix, les paroles, ce jeu des paroles où on n'a pas voulu mettre... les vraies voix sur les vrais visages, les voix sur les vrais visages, je les ai morcelées et éclatées sur tout l'espace de la bande de photographie. Donc ça, c'est un questionnement. Qu'est-ce que ça apporte? En tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'en général, les gens restent un peu longtemps, quoi. Ils ne font pas que passer. Les messages sont entendus et ils sont divers. On n'a pas triché là-dessus. Et pourtant... Il y a eu des personnes qui ont revendiqué vraiment. On était bousculés, j'ai été bousculé. En me disant, mais non, mais moi, je ne souffre pas du tout. J'ai mon autonomie, j'ai mes choses à faire, c'est très clair. Bon, c'était un peu provocant, parce que, justement, je crois que ce thème-là des femmes de marins, des Pénélopes d'aujourd'hui, elles veulent aussi s'en échapper. Mais pas toutes. Il y a une femme, par exemple, qui dit, moi, je tiens mon rôle historique de femme, et je dis... que quand je suis à la maison, dans le temps que je suis à la maison à m'occuper des enfants, ça ne m'empêche pas de lire, d'avoir mon potentiel créatif. Et justement, je sais partager ces moments d'absence et aussi ces moments de retour. Quand il revient, je suis son époux, je suis dédié à mon mari et je reprends ma vie avec lui. Mais quand il part, je reprends ma vie.
Mais ça, c'est la Pénélope dans toute sa splendeur, mais finalement. Puisque Pénélope, elle est active pour conjurer le cours du temps.
Oui, mais c'est pas aussi simple non plus, parce que quand elle se pose des questions, quand Ulysse revient, mais qu'il est encore pas revenu en tant qu'Ulysse, qu'il est encore avec ses artifices, son maquillage, comme un marin pourrait être avec ses galons, et que les prétendants sont toujours là, cette vie de Pénélope dans l'attente, mais avec cette vie de jeunesse qui grouille autour d'elle, qui lui mange tous les jours son bien, qui festoie, qui commence à ses jeunes... comme son fils Télémaque, tous ses copains qui commencent à rencontrer les femmes, toute cette vitalité primaire qui est autour de Pénélope, la questionne en tant que femme. Ça, c'est très beau, et c'est un truc qu'on n'a toujours pas, qui ne se résout pas. Donc, la Pénélope, oui, mais elle est quand même dans ce questionnement, dans cette tension. Et justement, c'est pour ça qu'en suivant l'éducation de chacune, suivant l'état de maturité, je dirais, parce que elles ne disent pas la même chose. Entre la plus jeune fille qui a 23 ans, qui est explosée, qui est en révolte, qui n'accepte pas que son homme parte, qui l'accepte quand même et qui cherche, mais entre cette femme-là et l'autre qui dit « Moi, maintenant, je sais comment organiser mon sentiment, mon temps, ma famille, entre toutes ces contraintes que j'ai, je sais comment faire. »
Ou celle qui a dit « elle m'a surprise, elle a dit « Je suis contente qu'il soit content de partir. »
Oui, il y a ça
parce
aussi.
Parce que s'il était triste et tout, elle a dit « C'est déjà dur pour tous les deux, c'est déjà dur pour moi. Mais si je savais qu'en plus, il était malheureux, ça serait encore plus dur à vivre. »
Oui, de même d'autres qui disent « S'il arrêtait d'être marin, je serais triste pour lui et moi-même, je serais triste. » Et une autre qui dit « Moi, cet homme, je l'ai rencontré, Je savais pas qu'il était marin et ça me plaît pas qu'il soit marin. Mmh. Mais c'est mon homme. Et Julia qui dit « Je te hais, mais quand tu reviens, j'aime me blottir dans tes bras. Je t'admire. » C'est toute une partie de l'humanité. Donc on voit bien qu'à travers ça, on a rencontré des paroles de femmes avant tout. Pas que des paroles de femmes de marin. Et moi, en tant qu'homme, ça m'a bousculé et j'ai peut-être fait un pas encore dans la compréhension de ce mystère entre l'homme et la femme.
Alors c'est amusant parce que moi j'ai deux exemples de femmes de marin, de femmes de sous-mariniers, parce que c'est quand même plus particulier et je veux dire, elles sont encore plus dans l'emprise de l'attente parce qu'il est sous l'eau. Et très souvent, comme ils sont en service commandé, elles n'ont pas de nouvelles pendant 2 mois, 3 mois. Ils n'ont pas le droit de donner aucune nouvelle tant qu'ils sont dans le sous-marin. Et alors, je voulais revenir à l'exemple, tu me disais, elles mettent 3 semaines avant que le mari se sente bien. Et la femme me racontait que quand son mari revenait, elle disait, c'est pestilentiel. Les odeurs du sous-marin sont pestilentielles. Elle dit, ça sent dans tous les vêtements. On a beau les laver, ça sent toujours. Et ce terme de 3 semaines, ça m'a fait sourire, parce qu'elle me disait qu'elle faisait des lessives, elle relavait sans arrêt les vêtements, jusqu'à ce que l'odeur arrive à disparaître. Et c'est effectivement au bout de 10, 15 jours qu'elle arrive à faire disparaître les odeurs du sous-marin. Et il y a un autre exemple, c'est les femmes de marin, les femmes de sous-mariniers qui voient le sous-marin partir. Et j'étais sur les plages du Mourillon et je voyais ces sous-marins, parce que c'est toujours assez extraordinaire de voir ces sous-marins partir, manœuvrer et tout. Et je voyais ces femmes, il y en avait une qui me sautonne à moi, qui me demande « Votre mari d'abord ?» Je dis « Non, non. » Mais je suis toujours passionnée de les voir arriver ou repartir devant les manœuvres. Et alors, elle s'est mise à m'expliquer toutes les manœuvres, pourquoi ils faisaient ça, et quels étaient les tenants et les aboutissants du sous-marin pour arriver à faire toutes ces manœuvres. Et cette femme-là, elle était transcendée à expliquer et à comprendre tout ce qui se passait alors qu'elle était loin de son mari. Et ça, ça m'avait assez bouleversée. Alors après avoir fait cette exposition, elle a lieu donc au Théâtre Liberté jusqu'à quand ?
Jusqu'au 4.
Donc en fait l'exposition se termine à la fin de la présentation d'Ithac.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Vous, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement d'avoir organisé cette exposition, d'avoir fait les photos, d'avoir fait les prises de son ? Quel œil vous avez maintenant sur ces femmes ?
Bah, pour moi, j'avais pas considéré que c'était une catégorie qui m'avait intéressé jusque-là. J'en connaissais deux, mais par hasard, et sans que pour moi ce soit des femmes de marin. Non, ce que ça m'a permis de comprendre, c'est un peu plus la population de Toulon, oui, effectivement. Ce que j'ai cherché, c'est surtout ce qui est universel, et qui n'est pas lié au statut des maris. Là, ce que ça a de particulier, c'est les contraintes de temps qui sont imposées de l'extérieur, qui sont longues. Mais sinon, ce sont des situations qu'on a évoquées qui sont universelles.
Moi, je dirais que je partage le projet. Enfin, j'ai répondu à ce projet parce que je reste persuadé qu'aujourd'hui, l'art ne doit plus être élitiste et qu'on doit rentrer en contact avec la population. Il y a plein de moyens différents. Mais en tout cas, la proposition du Théâtre Liberté, dans ce sens, dans ce cadre, pour moi, me convient. Il s'agit de rencontrer des gens en relation avec le théâtre pour créer un lien avec ces gens-là. Et donc ça, c'était ma première acceptation. La deuxième, ce que ça m'a apporté, c'est que ça a renouvelé mon regard et mon œil sur cette ville et sur cette population. Et dans un troisième volet, donc c'est pour ça que je suis quand même très content, et bien justement, ça m'a réouvert les yeux, ça m'a fait relire Homère, cette relation d'homme-femme, donc ça m'a apporté personnellement, en tant qu'homme, ça m'a ouvert l'esprit.
Là, nous allons terminer cette émission. Merci à vous deux, merci à Pascal Fayetton, merci à Alain Michon, donc pour leur exposition qui s'appelle Pénélope, qui se trouve au Théâtre Liberté, donc à Toulon, qui vient d'ouvrir ses portes depuis le mois d'août, donc c'est tout récent. Et donc l'exposition qui a lieu jusqu'au 4 décembre 2011. Voilà, merci à vous deux.
Merci
à très bientôt.
Merci Marion.
Miaou. Autre radio, autre culture. Au revoir.
autre radio, autre culture.